France Inter, le 18-20.
Combien seront-ils à se rendre aux urnes dimanche pour le second tour de la primaire de la droite et du centre? La semaine dernière, plus de 4 millions d'électeurs s'étaient déplacés pour ce scrutin dont le résultat a créé la surprise. Il y a eu la percée de François Fillon, bien sûr, mais aussi l'élimination de Nicolas Sarkozy, tout comme il y avait eu d'ailleurs l'élimination de Cécile Duflot lors de la primaire des Verts. Alors question, ce soir au téléphone sonne, les primaires sont-elles un modèle qui va s'imposer? Sont-elles en train de changer notre vie politique? La nature peut-être même de notre régime politique et améliore tel le fonctionnement de la démocratie. Pour en parler, à nos côtés, le constitutionnaliste Olivier Duhamel, auteur des primaires pour les nuls, c'est chez First Edition. Bonsoir.
Bonsoir.
Le politologue Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, qui a publié La France au front, essai sur l'avenir du Front National aux éditions Fayard. Bonsoir Pascal Perrineau.
Bonsoir.
Et à nos côtés également depuis 18h, le sociologue Michel Wieworka. Pour les interpeller, Bonsoir. Ou pour témoigner, tout simplement, n'hésitez pas à nous laisser un message sur franceinter.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson. N'hésitez pas à nous appeler que vous ayez voté ou pas dimanche dernier, que vous comptiez le faire ou pas après-demain. Le numéro de téléphone est toujours le même, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et on va tout de suite au standard rejoindre Mathieu qui nous appelle de la Loire. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter, on vous écoute.
Merci, bonsoir la France et bonsoir à vous. Je vous appelle parce que oui, je me demandais si la primaire n'était pas juste une occasion pour les partis politiques, notamment le PS et l'UMP, de surmédiatiser ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient à dire, sachant que on l'a constaté, tous les commentateurs l'ont dit, à propos de Fillon et de Juppé, qu'ils avaient plus ou moins le même discours, que dans 90% de leurs propositions, ils rejoignaient. Est-ce que c'est pas juste une occasion, justement,
de faire parler d'eux?
Ouais, de mettre un coup de projecteur sur ce qu'ils ont à raconter. Par ailleurs, moi, ce qui me gêne un petit peu dans ces histoires primaires aussi, c'est que j'ai l'impression que les journalistes ont déjà fait leur choix, que ce serait l'UMP, les Républicains, pardon, qui allaient gagner. Je prendrais pour exemple la primaire d'Europe Écologie Les Verts qui a été extrêmement peu médiatisée sur France Inter. Moi qui suis un auditeur assidu, j'ai appris qu'il y avait une primaire chez Les Verts. Une fois que le duel final a été connu.
Mathieu, hein, si je peux me permettre.
On en a parlé
et là vous voyez j'en ai parlé même en introduisant cette émission.
Okay, à titre d'exemple, pour illustrer ça. Chez Nicolas Demorand tous les dimanches, ça fait plusieurs semaines d'affilée que pendant 2 heures, il y a tous les candidats de la primaire pour les Républicains qui ont défilé. Quand il s'agissait de la primaire des Verts, j'ai pas entendu un seul de.
Ah si, 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 Yannick Jadot était venu, si je peux me permettre, Mathieu.
Chez Demorand, je l'avais entendu chez Charline Honecker. Chez Demorand, j'en suis pas persuadé. En tout cas, la couverture médiatique n'est pas la même.
On vous le confirme. Il est allé chez Nicolas Demorand le dimanche.
D'accord, bon, mais j'ai loupé ça.
Mais merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir appelé. Votre question est tout à fait intéressante. Est-ce qu'effectivement, c'est pas une bonne façon pour les partis, pour les candidats de faire parler d'eux? Est-ce que ça ne rallonge pas le temps politique, peut-être? Qui veut répondre à Mathieu? Pascal Perrineau?
Écoutez, à l'origine, les primaires, c'est tout de même un processus pour, dans une famille politique plus ou moins large, les primaires citoyennes de la gauche en 2011, les primaires de la droite et du centre cette fois-ci, pour trouver l'homme ou la femme qui est considéré par la famille électorale qu'il y a derrière ces familles politiques comme la plus compétente ou le plus compétent pour emmener son camp à la victoire. Alors ensuite, bien sûr, qu'il y ait campagne, c'est tout à fait légitime, que l'on entende les différentes sensibilités des différents candidats, c'est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas, bien sûr, de programmes clivants. Et on l'a vu en 2011 avec les différents candidats de la gauche, et on le voit aujourd'hui avec les différents candidats de la droite et du centre. En effet, il y a des différences sensibles, mais bien sûr, ça n'est pas le choc de projets de société les uns contre les autres, parce que ces hommes et ces femmes, pour la primaire de la droite et du centre, partagent largement à peu près les mêmes objectifs. Ils divergent plutôt sur les méthodes pour y parvenir. Donc c'est plus un conflit sur la méthode véritablement que sur les objectifs.
En tout cas, Olivier Muhamel, c'est quelque chose qui intéresse les Français parce que 4 300 000 votants dimanche dernier, 8 500 000 de téléspectateurs hier soir, ça intéresse.
Vous avez raison de citer ces chiffres et donc je vais aggraver mon cas auprès de Mathieu qui n'a pas l'air d'avoir une passion pour les médias en général. Le corps électoral qui a participé à la primaire des Verts, à la primaire d'Europe Écologie Les Verts et de l'écologie, c'est à peu près 0,5% du corps électoral qui a participé à la primaire de la droite et du centre. Donc quand un mouvement politique représente à ce point-là quelque chose de plus...
13 000 votants.
Hein, voilà, 13 000. Ah, donc 0,5, j'exagère beaucoup. 0,2, 0,3. Bon, et c'est pas absolument anormal. Je pense que Yannick Jadot a dû avoir... Enfin, Yannick Jadot, Cécile Duflot, Michel Rivasi, etc.
Karim Adeli.
Et voilà, et Karim Adeli, parfait. Les quatre, donc, ont dû avoir à peu près 0,3% et même plus de présence médiatique. Donc c'est pas anormal, je veux dire.
Et on précise quand même juste une petite chose, et comme ça ce sera fait, le temps d'antenne n'est pas du tout contrôlé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le temps d'antenne des primaires.
Non, non, il n'est pas contrôlé, heureusement, c'est ça nous casse assez les pieds en général avec sa conception chronométrique débile de la démocratie, pour que au moins il laisse les primaires tranquilles.
Voilà. Michel Vévorca, vous voulez ajouter un petit mot?
Oui, d'abord pour dire que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, des deux côtés. Oui, la primaire, elle permet quand même de choisir un candidat, tout simplement. Ce qui veut dire... qu'elle est aussi un signe, peut-être, de faiblesse et non pas de force des partis politiques. C'est-à-dire que ça n'est pas le parti qui choisit son candidat, le parti s'en remet à un électorat dont les contours, d'ailleurs, sont un peu faibles.
Une question peut-être à Olivier Duhamel, qui a écrit les primaires pour les nuls. On a l'impression que le système est en train de s'implanter en France, parce qu'au début, c'est parti des États-Unis, c'est ça? Il y a eu plusieurs primaires, alors d'abord complètement fermées, puis semi-ouvertes, maintenant ouvertes, notamment à gauche. Ça veut dire que on est en train d'institutionnaliser le principe?
Oui, je pense, et dans le fond, pour la raison que vient de dire Michel Vievorka, les gens dans une vie n'ont pas tellement de pouvoir, si vous voulez. Vous n'avez pas le pouvoir de choisir vos parents, vos profs à l'école, votre patron dans le boulot. Bon, hein, on n'a pas tellement de pouvoir. On a un pouvoir absolument incroyable, c'est qu'on peut choisir indirectement son maire, son député, on se parlait. Et le président de la République, excusez du peu, on peut choisir le président de la République. Et on peut même envoyer valdinguer des anciens présidents de la République. C'est un pouvoir extraordinaire. Et qu'est-ce que rajoute la primaire par rapport à ça? C'est qu'en plus, on va pouvoir choisir ceux qui vont aller à la compétition. Donc c'est un pouvoir de plus donné aux citoyens. Eh bien, quand vous donnez un pouvoir de plus dans les citoyens, pour l'enlever, à part de passer de la démocratie à la dictature, c'est très difficile. Ouais, vous pouvez mettre 3 siècles pour donner le droit de vote aux femmes, mais celui qui va faire campagne et qui réussira à enlever le droit de vote aux femmes, il n'est pas né.
J'espère bon. Bien.
Donc un droit de plus, c'est très difficile de revenir dessus.
Juste un mot, Pascal Perrineau, est-ce que ça se fait, ce pouvoir qui est gagné par les électeurs, au détriment des partis politiques ou pas? Ou est-ce que...
De manière évidente. Regardez.
Ils contrôlent quand même la machine.
Regardez toutes ces primes. Depuis qu'elles existent, que ce soit sous la modalité primaire fermée, primaire semi-ouverte ou primaire ouverte. C'est un cimetière pour les dirigeants de parti. Ça avait commencé, il faut se souvenir, en 1995, le chef du parti s'appelait Emmanuelli. Il y avait eu une primaire fermée uniquement sur les adhérents. C'était Lionel Jospin, le challenger, qui avait gagné contre le chef de parti. Ségolène Royal, en 2007, dans des primaires presque semi-ouvertes, elle gagne, au fond, contre le chef de parti qui n'ose même pas y aller, qui s'appelle François Hollande. Et puis la dernière fois, François Hollande, il gagne contre qui? Contre le chef du parti, Martine Aubry. Et là, dimanche dernier, eh bien François Millon, François Fillon, c'est intéressant
oui,
comme lapsus,
oui.
François Fillon a gagné contre le chef de parti.
Pour les chefs, vous avez raison Pascal, mais on peut peut-être ajouter quand même un tout petit bémol, c'est que ces partis qui sont tellement décriés, qui sont tellement rejetés, c'est eux qui organisent les primaires. Et être capable quand même, regardez là, être capable de mobiliser plus de 80 000 bénévoles pendant une journée entière, dans 11 000 ou 10 800 bureaux de vote, pourquoi? Pour donner à vos électeurs et au-delà, aux citoyens, un pouvoir que vous enlevez à vos apparatchiks. Ça, peut-être que quelque part, les Français se disent, tiens, les partis m'apportent quelque chose. Là.
Ça donne une légitimité aux partis, d'un côté, et d'un autre côté, c'est la signe d'une certaine faiblesse.
Tout à fait.
Les deux à la fois, ce qui est très paradoxal.
Absolument.
Et on repart au standard de France Inter, qui est en ligne cette fois, c'est Robert de Perpignan. Bonsoir Robert. C'est à vous.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bien alors, mon avis que j'exprime, c'est l'encouragement à voter pour son parti, bien sûr, mais pour le parti adverse. Alors pourquoi pour le parti adverse? C'est pour éviter l'effet Condorcet. Alors qu'est-ce que l'effet Condorcet? Il s'est produit lors de l'élection Giscard d'Estaing. Vous vous souvenez, il y avait un certain nombre de candidats, dont Mitterrand, Giscard et Chaban-Delmas. Il s'avère que c'est Giscard qui a été élu. Après l'élection de Giscard, Les sondages ont été faits sur l'ensemble des Français cette fois-ci, et il semblerait qu'une forte majorité, je crois me souvenir 75%, mais ça j'en suis moins sûr, des Français auraient préféré Chaban Delmas à Giscard. Donc j'encourage vivement les gens de voter et pour leur parti et pour le parti adverse, pour le parti adverse et pour un moindre mal dans la mesure où c'est ce parti adverse qui est élu.
Merci Robert pour cette
intervention. Robert a été entendu par 10 à 15% des sympathisants de gauche qui ont suivi Robert.
Les électeurs sont en train de devenir des stratèges, puisque donc il y a eu des électeurs de gauche qui sont allés dimanche dernier. Là, il y a des Arnaud Montebourg commence déjà à dire pour la primaire de la gauche qu'il va falloir aller voter pour éliminer François Hollande. Ça, c'est son discours à lui. Mais enfin, il lance un appel aux électeurs de droite.
Mais comme toujours, il faut être tout de même prudent. Ces électeurs stratèges qui viennent du camp d'en face pour essayer de perturber les équilibres de la famille, en l'occurrence dimanche dernier de la famille de la droite et du centre, ça reste marginal. Simplement, quand le rapport de force est très serré, la marge peut être décisive.
Il ne faut pas les appeler stratèges. C'est-à-dire, pas des gens. S'ils étaient stratèges, ils seraient allés voter Sarkozy en disant comme Sarkozy, les gens l'aiment pas, il faut que Sarkozy sorte, c'est bon pour la gauche. Ça n'existe pas. Peut-être 2-3 cinglés, mais globalement, ça n'a pas existé. En revanche,
c'est juste une opinion d'un citoyen qui veut.
Voilà, il se dit là, j'ai un pouvoir. Moi, ce que je veux absolument, c'est qu'il n'y ait pas Sarkozy. Et je ne veux pas me retrouver avec un second tour Sarkozy-Le Pen. J'ai la chance de pouvoir contribuer à ça, il y va. Donc c'est pas du calcul, c'est l'expression d'une forte opinion.
Si on regarde, c'est pas du calcul, et cependant, si je peux me permettre, hein,
Pascal Perrineau, allez-y.
Il faut bien voir que ces électeurs de gauche, ils étaient en train de faire leur deuil de la présence de la gauche au second tour de la prochaine élection présidentielle. Donc ils se disaient, ben voilà, qu'est-ce qui me reste? Ou bien je m'abstiens, ou bien je vais voter pour un candidat qui, de toute façon, sera battu parce qu'il n'accédera pas au second tour, ou bien je vais choisir, dans le camp de la droite, celui vis-à-vis duquel j'ai le moins d'hostilité. Et on le voit, 75% des électeurs de gauche qui se sont invités au banquet de la droite et du centre ont choisi Alain Juppé.
Michel Viborcas, c'est la consolation de l'électeur de gauche d'aller à la primaire de la droite.
Oui, enfin moi je dirais plutôt la désolation de l'électeur de gauche. Imaginez qu'un jour l'électeur de gauche est à choisir entre Florian Philippot et Marine Le Pen qui se seraient disputés, qui seraient les deux. Oui, on arrivera à des scénarios assez délirants. Il y a quand même quelque chose d'assez pervers et d'assez démoralisant, je trouve, à s'apercevoir que des électeurs n'ont rien d'autre à faire qu'utiliser leur capacité de voter. Mais je rajoute autre chose. Dans des jeux de ce type. Je pense que la primaire en France est quelque chose de jeune, de neuf. Aux États-Unis, où elle est quand même beaucoup plus ancienne, elle est beaucoup plus réglementée. Aux États-Unis, si vous êtes électeur républicain, vous n'irez pas voter.
Ça dépend. Non, ça dépend. Franchement, c'est pas du tout.
Oui, mais
il y a des cas
même...
où c'est tout à fait possible. Des cas où vous pouvez vous inscrire le jour même, ce qui ressemble un peu à la charte signée, ça dépend.
C'est quand même beaucoup plus dur. Je pense, disons qu'en tout cas, aux États-Unis, la question a été posée. Et elle est dans l'ensemble tranchée. J'accepte évidemment l'idée qu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais quand même, c'est une affaire jeune. La première vraie primaire, c'était en 2011. Il y a celle-ci maintenant.
Et il y a aussi des initiatives citoyennes. On essaiera d'en parler quand même dans cette émission, parce que c'est intéressant. Il y a des gens qui essayent de monter des primaires en dehors des partis politiques. C'est pas facile, Olivier.
Mais quand mes amis disent électeurs de gauche, ils simplifient. Il y a des gens qui ont été de gauche, mais qui sont moins de gauche, mais qui se disent... Puis il y a des gens... Bon, vous, Viévorka, ça va, vous êtes de gauche, c'est simple pour vous. Mais il y a des gens qui sont un peu de gauche, un peu de droite, un peu du centre. Vous savez, tout le monde n'est pas que de gauche, hein, comme disait Kolakowski, libéral, conservateur, socialiste, et je suis les trois. Donc, il faut pas trop simplifier le truc.
Pascal Perrineau, on passe.
Il est un peu de droite, un peu de gauche. Voilà.
On a parlé des sympathisants de gauche. Comment on mesure ça? C'est les gens qui disent, voilà, vous me présentez une liste de partis, je suis plutôt proche ou, disons, le moins éloigné de ces partis. Donc, vous voyez que c'est une manière d'être de gauche, ou d'ailleurs d'être de droite, pour les partis de droite, qui est tout de même assez, comment dire, assez lâche. Assez laxiste. Ah non, il n'y a pas de jugement moral dans cela. En effet, hein, c'est une manière très, très souple. Et, comme le dit Olivier Duhamel, il faut bien voir que, quand on est vaguement de gauche, que l'on va voter dans une primaire de droite, c'est souvent le premier stade d'un décrochage. On estime à peu près qu'un tiers de ces électeurs de gauche qui se sont rendus à la primaire de la droite et du centre iront choisir un candidat de droite au premier tour de l'élection présidentielle.
Va au standard juste après. Oui, Michel Viévorka.
Oui, ce qui veut dire une chose, c'est que il y a non pas dissolution du clivage droite-gauche dans quelque chose d'assez indéterminé, mais si on suit ce qui vient d'être dit, il y a droitisation générale de l'électorat, ce qui n'est quand même pas la même chose, et affaiblissement considérable. Alors, oui, je suis peut-être un archaïque diplodocus.
Mais non, j'ai pas dit archaïque.
Non, Olivier, non, pas
mais
du
non,
tout.
Mais en rien,
mais ce que,
non, non, en
mais ce que je veux dire, c'est que les positions de l'électorat classique de la gauche aujourd'hui sont difficiles à tenir, tout simplement parce qu'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de vision.
La date de la primaire.
Il y a une date d'une primaire.
Le 22 et le 29 janvier.
Il y a une sorte de fragmentation. Donc évidemment, tout ça donne une image assez inquiétante.
Allez, comme promis, on va au standard de France Inter. C'est Jean-Claude qui nous appelle de la région PACA. Bonsoir Jean-Claude. On vous écoute.
Bonsoir, merci pour vos émissions. Donc j'ai un peu entendu le débat quand même, malgré que je suis au téléphone. Moi je trouve que c'est pas représentatif, une primaire n'est pas représentative du corps électoral. Là, elle a été quand même pas mal. Les retraités se sont beaucoup déplacés. Ça a l'air d'être un électorat pas mal catholique, assez conservateur. Donc
n'en tirons pas trop des conclusions trop hâtives, hein, c'est ça.
Non. Voilà, disons que c'est quand même un électorat qui est limité. Ça représente pas la France, quoi. Alors est-ce que avant, quand il y avait les partis qui nommaient leurs candidats, est-ce que c'était quand même pas plus large, c'était plus consensuel, pour ratisser sûrement plus large, mais ça représentait un peu plus la France, parce que là tous les laissés pour compte, tous les gens qui ont un travail très difficile, la santé qui risque d'être privatisée, c'est quand même des choses, et c'est dans les mains de 4 millions de gens qui se sont déplacés à la primaire.
Merci Jean-Claude. On va peut-être laisser Pascal Perrineau vous répondre dans un premier temps.
Oui, en tout cas, c'est tout de même beaucoup plus représentatif que les partis. Il faut savoir que les partis, même à la meilleure de leurs heures, je pense au Parti Socialiste, par exemple, quand il choisit François Mitterrand en 1980, c'est 180 000 adhérents. Là, il s'agit, et c'était la même chose pour la primaire de citoyennes du PS et des radicaux de gauche en 2011, il s'agit de millions d'électeurs. Alors, sont-ils représentatifs, pour reprendre ce que disait l'auditeur, de l'électorat dans son ensemble? Bien sûr que non. Ils sont représentatifs de quoi? Ils sont représentatifs, l'expression n'est pas parfaite, mais du noyau dur de l'électorat qui se mobilisera à droite ou à gauche. Hein. Mais c'est vrai, 4,3 millions. Hein, on verra ce qu'il en est dimanche prochain.
Corps électoral 4 millions 3. 3
millions. Il faudra, pour qu'un candidat à droite l'emporte, qu'il ajoute à ces 4 millions 3 au moins 10 millions d'électeurs. Donc en effet, il y aura.
Mais ça crée une dynamique
une
quand même de sortir
mais,
vainqueur d'une primaire.
Mais il ne faut pas se tromper d'élection. Et si vous voulez, entre François Fillon et Alain Juppé, François Fillon, il s'est bien aperçu qu'il fallait s'adresser au cœur de cible de la droite et du centre. Et on pouvait avoir l'impression, encore dans le débat d'hier soir, qu'Alain Juppé était déjà, lui, dans une élection présidentielle, en oubliant qu'on devient candidat à l'élection présidentielle quand on a gagné la primaire de son camp.
Olivier Duhamel, vous pensez-vous que ça peut se retourner dimanche? Non.
D'abord, je pense... Non, ça ne peut pas se retourner dimanche. Je pense que 10% du corps électoral qui vote librement, c'est plus... infiniment plus que 0,3% du corps électoral qui vote en plus dans des sections tenues souvent par des petits seigneurs locaux. Donc, de toute façon, c'est plus démocratique. Et puis, par ailleurs, juste, c'est l'élection du candidat, c'est pas l'élection présidentielle. Donc, à l'élection présidentielle, où il y aura une déformation moindre, mais il y en aura une quand même, parce que malheureusement, les jeunes sont pas nombreux à aller voter, parce que malheureusement, les vieux vont... Bon, enfin, heureusement qu'ils y vont, mais ils y vont beaucoup plus que les jeunes, première déformation, parce que malheureusement, les exclus permanents du suffrage universel se retrouvent aussi dans des catégories les plus défavorisées, etc. Donc la déformation, on la retrouvera, mais nettement moindre. Mais attention, ne sera pas élu après-demain le président de la République française.
Michel Vévorka.
Deux choses. Un, si ça se passe comme ça avec des primaires, c'est parce qu'il y a une crise de la représentation politique. C'est aussi ça. Et donc, ça nous ramène à la discussion antérieure sur la crise des partis. Mais deuxièmement, si on pousse le raisonnement de notre auditeur jusqu'au bout, alors il devrait demander tout simplement à ce que ce soit les partis qui élisent le chef de l'État. Donc retour aux institutions d'une autre époque.
Ça veut dire, Olivier Duhamel, que les primaires changent quelque chose quand même dans notre façon de faire de la politique, dans notre régime politique actuel ? Ou est-ce que ça présidentialise une fois de plus régime ?
Alors, la critique la plus juste, sur, encore une fois, ce qui est quand même un surcroît de démocratie, c'est que pour ceux qui n'aiment pas la présidentialisation des démocraties, et particulièrement la présidentialisation assez outrancière de la démocratie en France, il faut bien admettre que la primaire est un facteur d'enracinement de cette présidentialisation, de légitimation de cette présidentialisation. Ceux qui, comme moi, aimeraient que dans l'idéal, on passe à une sixième république d'un type différent, dans lequel il y aurait plus une élection indirecte d'un premier ministre via législative, au lieu d'investir une sorte de monarque à double pouvoir et à double légitimité. Ce rêve s'éloigne un peu plus, mais de toute façon, il était très lointain, et ça conforte la Ve République. Alors, si on peut pas passer du tout à une Sixième République, autant démocratiser la Ve. Ça présidentialise un peu plus, c'est dommage. Ça démocratise cette présidentialisation, c'est mieux.
Et si je peux ajouter un mot, oui, n'oublions pas que tous les candidats à l'élection présidentielle ne seront pas issus de ces primaires. Nous savons déjà que Emmanuel Macron est candidat et qu'il a laissé entendre assez nettement qu'il ne serait pas candidat à une primaire. Et nous savons également que Jean-Luc Mélenchon est candidat et ne
et
va pas à la primaire.
Et que Marine Le Pen ne sera pas non et plus candidate à une éventuelle
plus.
Primaire.
Ça a été, comment dirais-je, quelque chose qui n'était pas évident de voir le chef de l'État, finalement, peut-être qu'il s'est fait tordre un peu le bras, annoncer qu'il irait à la primaire des socialistes. Donc c'est quand même... De ce point de vue-là, c'est aussi assez démocratique, je trouve, de dire, vous pouvez choisir votre candidat, si vous le voulez, en allant voter à la primaire du camp dont vous vous sentez le plus proche, mais vous pourrez aussi, à la présidentielle, voter pour des gens qui seront issus d'autres logiques.
Pascal Perrineau.
Non, il est vrai que le processus des primaires accroît la présidentialisation du régime, si tant est qu'elle a encore besoin, qu'il ait besoin, ce régime, d'être présidentialisé. Mais il faut entendre, en même temps, le souci d'une démocratie qui doit être une démocratie dans laquelle, face au pouvoir présidentiel, y ait de véritables contrepoids. Et au fond, on se demande s'il ne faudrait pas se rapprocher un jour du système qui a inventé la présidentielle, les primaires, à savoir le régime présidentiel américain, que l'on passe à un vrai régime présidentiel. Parce que là, aux États-Unis, le président, il a face à lui un véritable contre-pouvoir législatif, qui est, en effet, le Sénat, la Chambre des représentants. Il y a là un véritable contre-pouvoir, tandis que nous, en effet, la présidentialisation peut avoir des effets davantage pervers, parce que, en effet, on va toujours dans le sens de la présidentialisation, ce que Olivier Duhamel avait appelé l'hyper-présidence, et on a des contrepoids qui sont extrêmement faibles. Donc, pourquoi pas s'orienter un jour ou l'autre. Je sais que c'est pas la tradition française, etc. Et puis, que la seule
enfin,
fois on a essayé...
Le débat revient régulièrement sur l'éventuelle 6ème République.
Mais en même temps, qu'on puisse parler primaire, c'est juste le complément, c'est pour ça que les choses sont contrastées, comme le disait Michel Vavorka, qu'on puisse par une primaire sortir de la vie politique un ancien président de la République comme Nicolas Sarkozy, l'événement, la vitesse à laquelle on oublie l'événement historique principal d'il y a quoi, 5 jours, c'est rien. Sortir l'ancien président de la République par une primaire, et comment le sortir ? Excusez-moi, ça c'est quand même une forme de contre-pouvoir. Et si François Hollande décide, qu'à Dieu ne plaise pour lui, de se présenter, et imaginez qu'il soit lui aussi sorti à la primaire. Alors... Et si vous pensez pas que... Il faut voir que la sortie de Sarkozy, c'est un levier de plus pour les gens, pour l'anti-hollandisme, et pour les gens qui se disent, la primaire ça permet de sortir un président, si c'est ça je vais y aller. Vous vous rendez compte ? Bon, aux États-Unis, ça s'est produit, ça. Hein. Ça s'est produit. Truman, en 1952, il s'est fait taper dans New Hampshire et il a arrêté, il a renoncé à être candidat. Johnson, en 1968, il s'est fait taper, enfin non, il était très très faiblement en tête et Bob Kennedy déclare sa candidature et il se retire. Et aux États-Unis, on trouve ça normal, on appelle ça la démocratie. Mais chez nous, se débarrasser du monarque en place ou de l'ancien monarque sans lui couper la tête, mais s'en débarrasser par le vote, excusez, c'est un vrai progrès.
Hein. Effectivement, on repart au standard avec Philippe qui nous attend et il nous appelle de Grenoble. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous et merci de prendre mon appel et merci pour vos débats. Moi, je voulais réagir à la notion de stratège qui a été évoquée tout à l'heure, puisque je suis un électeur de gauche et voire écologiste parfois. Et en fin de compte, au premier tour de cette primaire, je ne me suis pas senti d'aller voter parce que ce n'était pas mon problème. Mais maintenant, le choix du candidat des Républicains qui, éventuellement, d'après ce qu'on nous annonce, sera face à Marine Le Pen au deuxième tour, si c'est la situation qui se passe, j'estime avoir mon mot à dire, puisque éventuellement, si c'est Juppé qui est face à Marine Le Pen, j'irai peut-être voter Juppé. Si c'est Fillon, je n'irai pas voter Fillon et je voterai blanc.
Merci beaucoup pour cet exemple que vous venez de nous donner, Philippe. Je crois que Virginie a quelque chose de semblable à nous dire. Elle nous appelle de Rennes. Bonsoir, Virginie.
Oui, bonsoir. Voilà, je voulais réagir parce que j'ai entendu que j'étais dans la voiture, donc l'émission a été un petit peu coupée. Mais j'ai entendu un de vos invités réagir en disant ils ont que ça à faire, les gens de gauche, de voter pour la primaire. Et moi, ça m'a fait bondir parce qu'il y a plein de gens en France qui ne votent pas. Et moi, en tant que citoyenne, je me déplace pour toutes les élections. Et là, pour les primaires, je voulais absolument faire barrage à Marine Le Pen. Alors voilà, j'ai pas envie dans quelques mois...
Alors qu'est-ce que vous allez faire, Virginie ?
Eh ben moi, j'ai voté pour les primaires à droite et je vais revoter dimanche.
C'est-à-dire que vous avez voté pour qui dimanche dernier ?
J'ai voté pour Juppé et j'espère pouvoir revoter pour Juppé dimanche prochain. Enfin, je vais le faire.
Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution pour faire barrage à Marine Le Pen ?
Je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne sais pas. Avec le débat d'hier soir, avec les sondages, mais je suis inquiète et je ne veux pas être passive. Je veux être actrice.
Eh ben merci.
Mais vous avez dû passer sous un tunnel, hein, parce qu'aucun d'entre nous n'a fait reproche à ça. Ça a dû couper à un moment bizarre, parce qu'aucun d'entre nous n'a reproché ça, hein, le fait que des gens...
Alors, il y a un de vos invités qui a dit, ils ont que ça à faire. Et ça m'a fait bondir.
Non, j'ai pas l'impression qu'on ait... Non, je pense que...
c'était un tunnel.
Ouais, effectivement.
Je vais quand même lui donner un tout petit peu raison. Je pense pas qu'on ait dit ça. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que la gauche, si on est un électeur de gauche, n'a rien, et que l'on va voter à une primaire de la droite et du centre, ça veut dire que la gauche n'a plus rien à faire, n'a plus rien à dire, et que la seule chose qui reste à cet électorat, c'est de croire qu'en votant pour tel ou tel candidat de droite ou du centre, il fera mieux obstacle au Front National. J'ajoute, excusez-moi de le dire aussi sèchement, j'ajoute qu'on peut ici rentrer dans des calculs bien plus différent de celui que vous proposez. On peut dire par exemple François Fillon est un très bon barrage contre le Front National parce qu'il va siphonner une partie de son électorat. On peut dire François Fillon est un très bon candidat pour la gauche parce que vu sa droitisation ou la position droitière qu'il occupe dans l'espace politique, il laisse un boulevard à un éventuel bon candidat de gauche, etc.
En tout cas, ce que disent Philippe et Virginie à leur façon, c'est que ils se sont impliqués dans ce qui se passe et puis ils s'expriment et profitent de cette occasion pour aller faire connaître leur avis.
Il faut rappeler que les primaires, c'était déjà d'ailleurs le cas en 2011 pour la gauche, pour aller voter aux primaires, on n'a pas besoin de sa carte. Hein. De sa carte d'adhérent d'un parti, c'est ouvert
deux,
à tous les électeurs, on peut voter aux deux.
Voilà, ouais,
et je crois qu'il y a des gens, d'ailleurs ça existe aux États-Unis, hein, ouais. Des gens qui vont voter aux deux dans certains États, c'est possible.
Notre parti droite peut aller voter à la primaire de droite et notre parti gauche à la primaire de gauche, pour ceux qui ont plusieurs partis dans la tête et dans le cœur.
Ce qui est important à dire, c'est que autrefois, c'était le premier tour de la présidentielle. En quelque sorte, la primaire, on éliminait les candidats à ce moment-là. Et maintenant qu'on a effectivement trois pôles politiques, il faut éliminer avant.
Vous avez
c'est pour
tout
ça
à fait
que
raison.
Les partis se lancent là-dedans.
Le premier tour servait de sélection. Mais attention, tout a changé depuis que l'on a un Front National qui est, si l'on en croit les intentions de vote, à 30% des intentions de vote ou 29% des intentions de vote et qui, bien au-delà des sondages, dans toutes les dernières échéances électorales, les européennes, les régionales, les départementales, est devenu le premier électorat français.
Olivier Duhamel.
Ah non, mais c'est complètement clair. Simplifions, il y a deux droites en France. On pouvait choisir entre la droite, allez, si on prend les catégories de Morléaniste et Bonapartiste, entre Le Canuet et De Gaulle. On pouvait choisir entre Giscard et Chaban. On pouvait choisir entre Balladur et Chirac. C'était sans risque. Le premier tour servait à ça, c'était sans risque. Parce que on savait que celui des deux qui gagnait, de toute façon, serait au second tour. Et maintenant, avec ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire avec la substitution à la bipolarisation d'une tri-partition, on peut pas se le permettre parce qu'on risque l'élimination des deux. Et c'est d'ailleurs exclusivement pour ça, et pas par grand bien esprit sûr démocratique, que les Républicains ont accepté le recours à la primaire, parce que sinon, ils savaient que c'était leur mort.
Une question de Moustapha, c'est par un internet. Moustapha de Toulouse, il nous dit, à quand des primaires pour les législatives ou pour les mairies, Olivier Duhamel, si j'ai bien lu votre livre, il y a déjà eu un cas à Marseille, oui, c'est ça? Il y a déjà des...
Oui, il y a, mais bon, pour l'instant, là, pour le coup, la différence, vous savez, quand les gens utilisent cet outil, ils regardent comment ça marche, quoi. Et que, si les premiers cas, ça marche bien, ça aide. Là, par exemple, c'est sûr que par rapport à tout ce qu'on a entendu, c'est sûr que la primaire des Républicains s'est passée très très bien. Je veux dire, très forte participation, aucune contestation du résultat au premier tour, alors qu'on aurait pu entendre, et j'ai même entendu des gens qui essayaient de prendre cette piste tout de suite étouffée, mais comment il y a des gens de gauche qui sont venus voter, ça vaut rien, etc. Pas de fraude, en tout cas pas de fraude avérée, des débats suivis avec passion, bref, ça s'appelle une primaire réussie. Vous avez eu quelques cas de primaires locales qui ont été assez ratées. Et donc, quand une primaire, et Marseille par exemple, et donc quand une primaire locale est ratée, ça n'aide pas, donc ça va être plus long et plus difficile à mettre en place.
Un petit mot des primaires en dehors des partis, les essais de primaires citoyennes, il y a eu la primaire.org, la vraie primaire, la primaire des Français, ça patine un peu, c'est difficile à organiser. Pourtant, sur Internet, il y a du monde qui s'y intéresse.
Oui, ce qui prouve d'ailleurs que, même si bien sûr la crise de la représentation dont parlait Vivorca existe, des partis existent, etc., ce qui prouve que quand même la structuration du paysage politique avec des forces politiques qui existent, qui sont identifiées, avec des responsables politiques qui nous disent quelque chose, ça compte pour les Français et que donc ils sont pas d'un démocratisme tel qu'il y ait eu des millions et des millions de gens demandant la primaire citoyenne.
Michel Vivorca, un dernier mot parce que je crois que vous devez partir.
Oui, non, je voulais juste citer le nom de Caroline De Haas, qui est un cas très intéressant puisqu'elle a milité activement pour une primaire du type de celle que vous venez d'évoquer, et puis on l'a retrouvée quelques mois plus tard, responsable de la campagne très classique de Cécile Duflot chez les Verts. Et donc, on sent très bien que les Français dans l'ensemble, et j'ai pris ça comme un tout petit exemple, enfin, ne peuvent pas se débarrasser complètement des tropismes partisans, du fonctionnement de la représentation, même si on souhaite, et on sent bien qu'il y a une demande de plus que ça.
Je vous promets que je vous passe la parole dans une seconde, Pascal Perrino, mais je voudrais qu'on aille une dernière fois au standard de France Inter retrouver Erwan, qui nous appelle de Versailles. Bonsoir Erwan.
Oui, bonsoir madame, bonsoir messieurs. J'avais une remarque à faire. Depuis donc le premier tour donc de ces primaires, tous les commentaires médiatiques nous disent « Attention, la droite 4 tours revient ». Il semble que ça soit tous les journalistes soient un peu obnubilés par ça. Il me semble que si M. Fillon était vraiment catho d'un point de vue politique, hein, je ne parle pas de sa foi personnelle.
Hein, catholicisme politique, on posera la question effectivement. Dites-nous, ouais, Erwan, quelle est votre question?
Eh ben, il serait contre l'avortement, il serait contre le mariage gay. Or, je ne crois pas qu'il ait dit un seul instant qu'il allait remettre en cause la loi Veil et la loi Taubira.
Merci. Merci Erwan, je suis obligée de vous couper parce que le temps presse. Pascal Perrino, j'ai vu ce que vous avez dit, la France profonde s'est vengée dimanche dernier. Pas forcément la France catho.
Oui, c'est pas forcément la France catho, mais enfin, depuis que le suffrage universel existe, l'on sait, c'est une des variables les plus pérennes, qu'il y a un lien étroit entre le fait d'être catholique, d'être pratiquant et le fait de voter à droite. Il n'y a jamais eu de démenti à cette association des deux. Donc on sait très bien, lorsqu'on s'adresse à la droite aujourd'hui et au centre, eh bien le noyau dur de ce peuple de droite et du centre, c'est l'électorat catholique, et particulièrement l'électorat des catholiques pratiquants réguliers ou irréguliers, qui ont changé depuis quelques décennies, parce que c'était un peuple silencieux. Et c'est un peuple qui maintenant a pris l'habitude de se mobiliser. Souvenons-nous, la première grande mobilisation de ce peuple, c'est en 1984 contre la loi Savary. Et on l'a vu depuis, ce peuple prend l'habitude, quand il estime, à tort ou à raison, que ce à quoi il croit est menacé, eh bien il sort dans la rue. Et on l'a vu contre la loi Taubira. C'était des quarts entiers de paroisses, de petites villes de province qui ont fait le chemin à Paris pour aller manifester la plupart du temps en famille. Cet électorat s'est retrouvé, ça n'est pas tout l'électorat, bien sûr, de François Fillon, mais cet électorat de François Fillon s'est retrouvé en François Fillon, non pas parce que François Fillon est catholique, je crois savoir qu'Alain Juppé aussi est catholique, mais parce qu'il exprimait cette prise de parole d'un peuple qui considère...
Et qu'il a su apporter son soutien à un certain nombre d'organisations, sans doute.
Qu'il n'est pas, vous voyez, qu'il n'a pas de débouché dans les médias, qu'on ne lui donne pas l'écho qu'il devrait avoir.
Il est presque 19h57. Olivier Duhamel, une question de Blandine par mail. Elle fait partie de l'électorat de gauche, dit-elle, qui désespère de voir un candidat unique représenter nos idées en 2017. Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable pour la gauche, cette primaire prévue au mois de janvier, ou il faudrait accélérer le mouvement ?
Non, la primaire du mois de janvier aura, je pense, lieu, mais ce n'est pas une primaire de la gauche. C'est une primaire.
La belle alliance.
C'est une primaire du Parti Socialiste et quelques petites filiales.
Écolo,
éventuellement radicales de gauche. C'est pas une primaire de la gauche.
C'est raté pour ce qui est de la vraie primaire de la gauche.
Or, si la gauche voulait retrouver une chance de gagner l'élection présidentielle, il est clair qu'il lui fallut une primaire de l'ensemble de la gauche. Mais d'une part, les fractures sont terribles. Au sein de la gauche, les fractures idéologiques sont très profondes. Et d'autre part, il est tellement intériorisé l'idée de la défaite qu'on se dit, étant donné qu'on n'est pas d'accord et que c'est la défaite, chacun pour soi, Dieu va.
Voilà,
donc malheureusement, vous pouvez continuer à désespérer.
Pascal Perrineau.
Oui, je crois que ça n'est que le débouché de ce qui s'est passé en particulier depuis 2 ans. Quand vous avez une partie du groupe de la majorité, ce qu'on a appelé les frondeurs, qui se met à voter la défiance vis-à-vis de son propre gouvernement, vous voyez que l'on est dans des fractures qui sont pas simplement, vous voyez, les fractures entre la gauche de la gauche et la gauche, j'allais dire officielle, la gauche de gouvernement.
De gauche irréconciliable d'Emmanuel
Valls.
Ça va bien
au-delà. Oui, ça a quelque chose à voir avec ces deux gauches irréconciliables.
Ce qui veut dire juste, quand on comprend les primaires, que les deux seuls débuts d'espérance possibles à gauche, au sens large du terme, sont hors primaire Mélenchon-Macron.
Merci beaucoup Olivier Duhamel, merci beaucoup Pascal Perrineau, Michel Vivorca nous a déjà quittés. C'est la fin de ce téléphone sonne, merci à toutes et à tous d'avoir appelé, merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Irène Menahem, Marie-Claude Malartic, Jérémy Younes, à la réalisation ce soir Eric Lenné, à la technique Mehdi Fatah, Ludovic Asselot, Serge Viguier, au standard nous avons Adrien Vallaud, Clarisse Giraud-Dias, il est 19h58.